Sie meint ja, dass sie jetzt zur Familie gehört. Aber das will natürlich niemand von uns. Verstehst du das?
Dazu kann ich nicht viel sagen.
Jetzt nach Günthers Tod bekommt sie vielleicht sogar ihren Willen. Also was das Finanzielle angeht. Sie will ja ihren Pflichtteil notfalls einklagen.
Ich habe Vanessa gefragt, ob ich auf dich warten kann. Du hast ja echt eine große Tochter. Ich dachte, ich überlege mir das vielleicht nochmal mit dem Übernachten.
Aha.
Kriege ich auch ein Bier? Ich habe nämlich was zu feiern. Mein Anwalt meint, ich bekomme wahrscheinlich einen gerichtlich angeordneten DNA-Test.
Leider, du bist zur Fahndung ausgeschrieben.
Wieso das denn?
Weil meine Kollegen bei dir in der Bude eine Dose von dem Gift gefunden haben, mit dem der alte Erwin nicht umgebracht wurde.
Rolf wird doch jetzt Geschäftsführer, ne? Weil, Marlene, Rolf hat doch schon immer in der Räucherei gearbeitet, von klein auf. Warum hat ihn Günther denn nicht schon zu Lebzeiten berufen?
Günther hat ihm das lange einfach noch nicht zugetraut. Und in den letzten Jahren hat er ihn nicht in die Geschäftsführung gelassen, weil er wusste, dass Rolf die Firma verändern wollte. Er kam dahinter, dass Rolf heimlich bereits Sondierungsgespräche geführt hat wegen einer Beteiligung unserer Räucherei an der Großmastanlage Fleischwelt. Es gab einen Riesenstreit zwischen Rolf und Günther an dem Abend. Günther wollte Rolf entlassen. Ich war auf Günthers Seite. Aber dann stand plötzlich Leila in der Tür. Mit einem Bündel Liebesbriefe in der Hand, aus denen hervorging, dass Günther von Anfang an wusste, dass sie seine Tochter ist. Über 30 Jahre. Dass er so belogen und betrogen hat. Ich weiß nicht, wie oft das ergehen soll.
Ja, aber ich töte doch nicht meinen eigenen Vater.
Wie kommt Wohnung?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Nicht mal, wo man sowas herbekommt.
Beim alten Bottrop vielleicht?
Ja, meine Mutter und ich haben da gewohnt, als ich klein war. Und da kam der Günther manchmal vorbei. Ich wollte einfach nur sehen, wie es da ist. Ich dachte, ich erinnere mich. Das musst du mir glauben. Quatsch.
Gott, dass ich darüber reden kann. Ich mache mir solche Vorwürfe.
Warum?
Ich hätte Rolf nicht zeigen dürfen, wie sehr Günther mich verletzt hat.
Alleine aus, Marlene. Das hält niemand aus auf Dauer.
Ich habe gesehen, wie Altstreuer neben Günthers Teller gestellt hat. Ihn mit einer Serviette angefasst. Deshalb habe ich mich gewundert. Und als du bei deinem letzten Besuch gesagt hast, dass das Gift in dem Streuer war, da wusste ich es. Was soll ich denn jetzt machen, Britta?
Wir fahren zu Max und du gibst es zu Protokoll.
Aber ich kann Rolf nicht verraten.
Weiß er denn, dass du es gesehen hast? Hast du mit ihm gesprochen?
Britta, ich tun soll, bitte.
Du musst eine Aussage machen, Marlene.
Vielleicht kann ich ja mit deiner Hilfe bringen, sich zu stellen.
Was redest du hier rum, Mama? Was soll denn das?
Ich wollte gerade gehen. Wollte Marlene noch die Lammkoteletts.
Keiner weg! Lass mich doch nicht von euch fertig machen.
Thank you. Anarchism, what it really stands for. The history of human growth and development is at the same time the history of the terrible struggle of every new idea heralding the approach of a brighter dawn. In its tenacious hold on tradition, the old has never hesitated to make use of the foulest and cruelest means to stay the advent of the new, in whatever form or period the latter may have asserted itself. Nor need we retrace our steps into the distant past to realize the enormity of opposition, difficulties, and hardships placed in the path of every progressive idea. The rack, the thumbscrew, and the knout are still with us. So are the convict's garb and the social wrath, all conspiring against the spirit that is serenely marching on. Anarchism could not hope to escape the fate of all other ideas of innovation. Indeed, as the most revolutionary and uncompromising innovator, anarchism must needs meet with the combined ignorance and venom of the world it aims to reconstruct. To deal even remotely with all that is being said and done against anarchism would necessitate the writing of a whole volume. I should therefore meet only two of the principal objections. In doing so, I shall attempt to elucidate what anarchism really stands for. The strange phenomenon of the opposition to anarchism is that it brings to light the relation between so-called intelligence and ignorance. And yet this is not so very strange when we consider the relativity of all things. The ignorant mass has in its favor that it makes no pretense of knowledge or tolerance. Acting, as it always does, by mere impulse, its reasons are like those of a child. Why? Because. Yet the opposition of the uneducated to anarchism deserves the same consideration as that of the intelligent man. What, then, are the objections? First, anarchism is impractical, though a beautiful ideal. Second, anarchism stands for violence and destruction, hence it must be repudiated as vile and dangerous. Both the intelligent man and the ignorant mass judge not from a thorough knowledge of the subject, but either from hearsay or false interpretation. A practical scheme, says Oscar Wilde, is either one already in existence or a scheme that could be carried out under the existing conditions. But it is exactly the existing conditions that one objects to, and any scheme that could accept these conditions is wrong and foolish. The true criterion of the practical, therefore, is not whether the latter can keep intact the wrong or foolish. Rather, it is whether the same scheme has the vitality enough to leave the stagnant waters of the old and build, as well as sustain, new life. In the light of this conception, anarchism is indeed practical. More than any other idea, it is helping to do away with the wrong and foolish. More than any other idea, it is building and sustaining a new life. The emotions of the ignorant man are continuously kept at a pitch by the most blood-curdling stories about anarchism. Not a thing too outrageous to be employed against this philosophy and its exponents. Therefore, anarchism represents to the unthinking what the proverbial bad man does to the child. A black monster bent on swallowing everything. In short, destruction and violence. Destruction and violence! How is the ordinary man to know that the most violent element in society is ignorance, that its power of destruction is the very thing anarchism is combating? Nor is he aware that anarchism, whose roots, as it were, are part of nature's forces, destroys not healthful tissue, but parasitic growths that feed on the life's essence of society. It is merely clearing the soil from weeds and sagebrush, that it may eventually bear healthy fruit. Someone has said that it requires less mental effort to condemn than to think. The widespread mental indolence so prevalent in society proves this to be only too true. Rather than to go to the bottom of any given idea, to examine its origin and meaning, most people will either condemn it altogether or rely on some superficial or prejudicial definition of non-essentials. Anarchism urges man to think, to investigate, to analyze every proposition, but that the brain capacity of the average reader be not taxed too much, I also should begin with a definition and then elaborate on the latter. Anarchism, the philosophy of a new social order based on liberty unrestricted by man-made law, the theory that all forms of government rest on violence and are therefore wrong and harmful, as well as unnecessary. The new social order rests, of course, on the materialistic basis of life. But while all anarchists agree that the main evil today is an economic one, they maintain that the solution of that evil can be brought about only through the consideration of every phase of life, individual as well as collective, the internal as well as the external phases. A thorough perusal of the history of human development will disclose two elements in bitter conflict with each other, elements that are only now beginning to be understood, not as foreign to each other, but as closely related and truly harmonious, if only placed in proper environment, the individual and social instincts. The individual and society have waged a relentless and bloody battle for ages, each striving for supremacy because each was blind to the value and importance of the other. The individual and social instincts, the one and most potent factor for individual endeavor, for growth, aspiration, self-realization, the other an equally potent factor for mutual helpfulness and social well-being. The explanation of the storm raging within the individual and between him and his surroundings is not far to seek. The primitive man, unable to understand his being, much less the unity of all life, felt himself absolutely dependent on blind, hidden forces ever ready to mock and taunt him. Out of that attitude grew the religious concepts of man as a mere speck of dust dependent on superior powers on high, who can only be appeased by complete surrender. All the early sagas rest on that idea, which continues to be the leitmotiv of the biblical tales dealing with the relation of man to God, to the state, to society. Again and again, the same motive, man is nothing, the powers are everything. Thus, Jehovah would only endure man on condition of complete surrender. Man can have all the glories of the earth, but he must not become conscious of himself. The state, society, and moral laws all sing the same refrain. Man can have all the glories of the earth, but he must not become conscious of himself. Anarchism is the only philosophy which brings to man the consciousness of himself, which maintains that God, the state, and society are non-existent, that their promises are null and void, since they can be fulfilled only through man's subordination. Anarchism is therefore the teacher of the unity of life, not merely in nature, but in man. There is no conflict between the individual and social instincts, any more than there is between the heart and the lungs. The one the receptacle of a precious life essence, the other the repository of the element that keeps the essence pure and strong. The individual is the heart of society, conserving the essence of social life. Society is the lungs which are distributing the element to keep the life essence, that is, individual, pure and strong. Quote, "The one thing of value in the world," says Emerson, "is the active soul. This every man contains within him. The soul active sees absolute truth and utters truth and creates." End quote. In other words, the individual instinct is the thing of value in the world. It is the true soul that sees and creates the truth alive, out of which is to come a still greater truth, the reborn social soul. Anarchism is the great liberator of man from the phantoms that have held him captive. It is the arbitrator and pacifier of the two forces for individual and social harmony. To accomplish that unity, anarchism has declared war on the pernicious influences which have so far prevented the harmonious blending of individual and social instincts, the individual and society. Religion, the domination of the human mind, property, the domination of human needs, and government, the domination of human conduct, represent the stronghold of man's enslavement and all the horrors it entails. Religion, how it dominates man's mind, how it humiliates and degrades his soul. God is everything, man is nothing, says religion. But out of that nothing, God has created a kingdom so despotic, so tyrannical, so cruel, so terribly exacting, that naught but gloom and tears and blood have ruled the world since God's began. Anarchism rouses man to rebellion against this black monster. Break your mental fetters, says anarchism to man, for not until you think and judge for yourself will you get rid of the domination of darkness, the greatest obstacle to all progress. Property, the domination of man's needs, the denial of the right to satisfy his needs. Time was when property claimed a divine right, when it came to man with the same refrain, even as religion, sacrifice, abnegate, submit. The spirit of anarchism has lifted man from his prostrate position. He now stands erect, with his face toward the light. He has learned to see the insatiable, devouring, devastating nature of property, and he is preparing to strike the monster dead. Property is robbery, said the great French anarchist Proudhon. Yes, but without risk and danger to the robbery. Monopolizing the accumulated efforts of man, property has robbed him of his birthright, and has turned him loose, a pauper, an outcast. Property is not even the time-worn excuse that man does not create enough to satisfy all needs. The ABC student of economics knows that the productivity of labor within the last few decades far exceeds normal demand. But what are normal demands to an abnormal institution? The only demand that property recognizes is its own gluttonous appetite for greater wealth, because wealth means power. The power to subdue, to crush, to exploit, the power to enslave, to outrage, to degrade. America is particularly boastful of her great power, her enormous national wealth. Poor America, of what avail is all her wealth if the individuals comprising the nation are wretchedly poor? If they live in squalor, in filth, in crime, with hope and joys gone, a homeless, soilless army of human prey. It is generally conceded that unless the returns of any business venture exceed the cost, bankruptcy is inevitable. But those engaged in the business of producing wealth have not yet learned even this simple lesson. Every year the cost of production and human life is growing larger, 50,000 killed, 100,000 wounded in America last year. The the returns to the masses who help create the wealth are ever getting smaller. Yet America continues to be blind to the inevitable bankruptcy of our business of production. Nor is this the only crime of the latter. Still more fatal is the crime of turning the producer into a mere particle of a machine, with less will and decision than his master of steel and iron. Man is being robbed not merely of the products of his labor, but of the power of free initiative, of originality, and the interest in or desire for the things he is making. Real wealth consists in things of utility and beauty, and things that help to create strong, beautiful bodies and surroundings inspiring to live in. But if man is doomed to wind cotton around a spool, or dig coal, or build roads for 30 years of his life, there can be no talk of wealth. What he gives to the world is only gray and hideous things, reflecting a dull and hideous existence, too weak to live, too cowardly to die. Strange to say, there are people who extol this deadening method of centralized production as the proudest achievement of our age. They fail utterly to realize that if we are to continue in machine subserviency, our slavery is more complete than was our bondage to the king. They do not want to know that centralization is not only the death knell of liberty, but also of health and beauty, of art and science, all these being impossible in a clock-like, mechanical atmosphere. Anarchism cannot but repudiate such a method of production. Its goal is the freest possible expression of all the latent powers of the individual. Oscar Wilde defines a perfect personality as, quote, one who develops under perfect conditions, who is not wounded, maimed, or in danger, end quote. A perfect personality, then, is only possible in a state of society where man is free to choose the mode of work, the conditions of work, and the freedom to work. One to whom the making of a table, the building of a house, or the tilling of the soil is what the painting is to the artist and the discovery to the scientist. The result of inspiration, of intense longing, and deep interest in work as a creative force. That being the ideal of anarchism, its economic arrangements must consist of voluntary productive and distributive associations, gradually developing to free communism as the best means of producing with the least waste of human energy. Anarchism, however, also recognizes the right of the individual, or numbers of individuals, to arrange at all times for other forms of work in harmony with their tastes and desires. Such free display of human energy being possible only under complete individual and social freedom, anarchism directs its forces against the third and greatest foe of all social equality, namely, the state, organized authority or statutory law, the dominion of human conduct. Just as religion has fettered the human mind, and as property, or the monopoly of things, has subdued and stifled man's needs, so has the state enslaved his spirit, dictating every phase of conduct. Quote, all government, in essence, says Emerson, is tyranny, end quote. It matters not whether it is government by divine right or majority rule. In every instance, its aim is the absolute subordination of the individual. Referring to the American government, the greatest American anarchist David Thoreau said, quote, government, what is it but a tradition, though a recent one, endeavoring to transmit itself unimpaired to posterity, but each instance losing its integrity. It is not the vitality and force of a single living man. Law never made man a whit more just, and by means of their respect for it, even the well-disposed are daily made agents of injustice. End quote. Indeed, the keynote of government is injustice. With the arrogance and self-sufficiency of the king who could do no wrong, governments ordain, judge, condemn, and punish the most insignificant offenses, while maintaining themselves by the greatest of all offenses, the annihilation of individual liberty. Thus Ouida is right when she maintains that, quote, the state only aims at instilling those qualities in its public by which its demands are obeyed, and its exchequer is filled. Its highest attainment is the reduction of mankind to clockwork. In its atmosphere, all those finer and more delicate liberties, which require treatment and spacious expansion, inevitably dry up and perish. The state requires a tax-paying machine in which there is no hitch, an exchequer in which there is never a deficit, and a public, monotonous, obedient, colorless, spiritless, moving humbly like a flock of sheep along a straight high road between two walls. End quote. Yet even a flock of sheep would resist the chicanery of the state, if it were not for the corruptive, tyrannical, and oppressive methods it employs to serve its purposes. Therefore, Bakunin repudiates the state as synonymous with the surrender of the liberty of the individual or small minorities, the destruction of social relationship, their curtailment or complete denial even of life itself for its own aggrandizement. The state is the altar of political freedom and, like the religious altar, it is maintained for the purpose of human sacrifice. In fact, there is hardly a modern thinker who does not agree that government, organized authority, or the state is necessarily only to maintain or protect property and monopoly. It has proven efficient in that function only. Even George Bernard Shaw, who hopes for the miraculous from the state under Fabianism, nevertheless admits that, quote, it is at present a huge machine for robbing and slave driving of the poor by brute force, end quote. This being the case, it is hard to see why the clever prefacer wishes to uphold the state after poverty shall have ceased to exist. Unfortunately, there are still a number of people who continue in the fatal belief that government rests on natural laws, that it maintains social order and harmony, that it diminishes crime, and that it prevents the lazy man from fleecing his fellows. I shall therefore examine these conditions.
Et lang jasjes.
Dikke blume.
Dikke blume.
Dikke blume.
Dikke blume. Dikke
blume. Dikke blume.
En libelle flog for meg. De hem irriterde.
Hij had ook geen haren.
Hij had ook geen haren.
Men noemde hem maar bij wijze van spreken roodharig.
Ze zeggen dat mooie vrouwen een dikke kont hebben.
Alıştım sana.
Alıştım sana bir tanem. Sensiz bir yere gidemem ben. Beni biraz anlasan. Senden desin yar, senden desin sen. Alıştım sana bir tanem. Sensiz bir yere gidemem ben. Beni biraz anlasan. Sen bendesin ya, sen bendesin sen.
Jusqu'alors, je l'avais interrogé par simple curiosité. Mais à partir de ce moment, j'éprouvais à son égard un immense intérêt et je me mis à écouter avec la plus grande attention toutes les explications qu'il continua à me donner. Je compris soudain de tout mon être que certaines idées que j'avais acceptées jusqu'alors comme des vérités incontestables n'étaient pas justes. Auparavant, je n'avais vu qu'un seul côté des choses. Maintenant, je les voyais sous un jour différent. Une foule de questions surgissait dans ma tête à propos du problème que nous avions abordé. Absorbé par notre conversation avec le derviche, le docteur Sarioglé et moi avions complètement oublié nos autres camarades et nous avions cessé de traduire ses paroles. Voyant combien nous étions intéressés, il nous interrompait de temps en temps par des questions « Que dit-il ? De quoi parle-t-il ?» et chaque fois nous devions nous débarrasser d'eux en leur promettant de tout leur raconter plus tard en détail. Lorsque le derviche eut fini de parler de la mastication artificielle, des différents moyens d'absorber la nourriture et de la transformation automatique qu'elle subit en nous, selon les lois, je lui dis « Ayez la bonté, mon père, de m'expliquer ce que vous pensez de la respiration artificielle. Je la crois utile et la pratique selon les indications des yogis. J'aspire l'air, je le retiens quelques instants et je l'exhale lentement. Peut-être serait-il préférable de ne pas le faire ?» Le derviche, voyant que mon attitude envers ses paroles avait changé du tout au tout, se mit à m'expliquer avec bienveillance ce qui suit. Si vous vous faites du mal en mâchant ainsi la nourriture, vous vous en faites mille fois plus en pratiquant cette sorte de respiration. Tous les exercices de respiration qui sont donnés dans les livres ou que l'on enseigne dans les écoles ésotériques contemporaines ne peuvent faire que du mal. La respiration, comme doit le comprendre tout homme de bon sens, est, elle aussi, un processus d'absorption, mais d'une autre sorte de nourriture. En entrant dans l'organisme et en s'y transformant, l'air, tout comme la nourriture ordinaire, se décompose en ses parties constitutives qui forment de nouvelles combinaisons, soit entre elles, soit avec les éléments correspondants de certaines substances déjà présentes dans l'organisme. Pour donner naissance aux différentes substances qui ne cessent d'être consumées par les processus de vie qui s'opèrent en l'homme. Vous n'ignorez pas que pour obtenir une substance nouvelle, les éléments qui la constituent doivent être dosés selon des proportions bien définies. Prenons le plus simple des exemples. Vous voulez cuire du pain. Pour cela, il vous faut tout d'abord préparer la pâte. Cette pâte exige une stricte proportion d'eau et de farine. Si vous ne mettez pas assez d'eau, au lieu de pâte, vous aurez quelque chose qui se brisera au moindre contact. Si vous mettez trop d'eau, vous ferez une bouillie, tout juste bonne à nourrir les animaux. Ni dans un cas ni dans l'autre, vous n'obtiendrez la pâte dont on fait le pain. Il en va de même pour toutes les substances requises par l'organisme. Les éléments qui les composent doivent se combiner entre eux dans une stricte proportion, en qualité comme en quantité. Quand vous respirez de la manière habituelle, vous respirez mécaniquement. L'organisme prend lui-même dans l'air, sans votre aide, la quantité de substance qu'il lui faut. Les poumons sont ainsi faits qu'ils sont habitués à travailler avec une quantité d'air bien définie. Si l'on modifie la quantité d'air qui passe dans les poumons, les processus intérieurs de fusion et d'équilibre s'en trouveront eux-mêmes inévitablement modifiés. Pour qui ne connaît pas dans tous leurs détails les lois fondamentales de la respiration, la pratique de la respiration artificielle ne peut que mener à une autodestruction lente, peut-être, mais certaine. Ne perdez pas de vue qu'en dehors des substances nécessaires à l'organisme, l'air en contient d'autres, qui sont inutiles et même nuisibles. Et la respiration artificielle, c'est-à-dire la modification forcée de la respiration naturelle, permet à ces nombreuses substances nuisibles à la vie de pénétrer dans l'organisme. En même temps, elle rompt l'équilibre quantitatif et qualitatif des substances utiles à une vie normale. La respiration artificielle change la proportion entre la quantité de nourriture que nous tirons de l'air et celle de nos autres nourritures. Par suite, si vous augmentez ou diminuez l'apport d'air, il vous faut augmenter ou diminuer en conséquence l'apport des autres sortes de nourriture. Pour maintenir un juste équilibre, il vous faut avoir une entière connaissance de votre organisme. Mais vous connaissez-vous si bien ? Savez-vous par exemple que les aliments sont nécessaires à l'estomac non seulement pour la nutrition elle-même, mais parce qu'il est accoutumé à recevoir une quantité définie de nourriture ? Si nous mangeons, c'est avant tout pour satisfaire notre goût et pour obtenir la sensation habituelle de plénitude qu'éprouve l'estomac quand il contient une certaine quantité de nourriture. Dans les parois de l'estomac se ramifient les nerfs mobiles qui, entrant en activité en l'absence d'une certaine pression, nous font éprouver la sensation particulière que nous nommons faim. Il y a ainsi différentes sortes de faim. Par exemple, la faim du corps ou faim physique est ce que l'on pourrait appeler la faim nerveuse ou psychique. Tous nos organes travaillent mécaniquement et en chacun d'eux se crée, selon sa nature et l'habitude acquise, un certain rythme de fonctionnement. Il existe entre les rythmes de fonctionnement des différents organes une relation bien définie qui assure à l'organisme son équilibre. Un organe dépend de l'autre, tout est lié. En modifiant artificiellement la respiration, nous commençons par modifier le rythme de fonctionnement des poumons, mais comme l'activité des poumons est liée entre autres à celle de l'estomac, le rythme de fonctionnement de ce dernier s'en trouve lui-même modifié, tout d'abord légèrement, puis de manière de plus en plus accusée. Pour digérer, l'estomac a besoin d'un certain temps, disons environ une heure. Mais si le rythme de fonctionnement de l'estomac est changé, le temps pendant lequel les aliments y séjournent changera lui aussi. Par exemple, les aliments passeront si vite que l'estomac n'aura le temps de faire qu'une petite partie de son travail. Il en est de même pour les autres organes. Aussi est-il mille fois préférable de ne pas toucher à notre organisme. Mieux vaut le laisser dans l'état où il est, même s'il est détraqué, que de le réparer sans savoir comment. Je le répète, notre organisme est un appareil très compliqué. Il comporte de nombreux organes qui ont tous des processus de rythme différents et des besoins différents. Il vous faut donc choisir, changer tout ou ne changer rien. Sinon, en fait de bien, vous ne ferez que du mal. Quantité de maladies proviennent de la respiration artificielle. Bien souvent, cela finit par une dilatation du cœur ou par un rétrécissement de la trachée quand ce n'est pas l'estomac, le foie, les reins ou les nerfs qui sont atteints. Il est très rare que ceux qui s'exercent à la respiration artificielle ne ruinent pas définitivement leur santé. Seuls s'en tirent ceux qui savent s'arrêter à temps. Quiconque s'adonne pendant longtemps à la respiration artificielle en subira tôt ou tard les déplorables effets. C'est seulement si vous connaissez chaque petite vis, chaque petit rouage de votre machine, que vous pouvez savoir ce que vous devez faire. Mais si vous ne savez presque rien et que vous tentez une expérience, vous risquez gros, car la machine est très compliquée. Certaines petites vis peuvent aisément se casser sous un choc violent et vous ne les retrouverez ensuite dans aucune boutique. Et puisque vous me demandez mon avis, voilà le conseil que je vous donne. Cessez vos exercices de respiration. Notre conversation se poursuivit fort avant dans la nuit. Au moment de partir, après m'être concerté avec le prince sur ce que nous ferions ensuite, je remerciai le derviche en lui disant que nous nous proposions de rester un jour ou deux de plus dans ce village et lui demandai s'il nous permettrait de parler encore une fois avec lui. Il y consentit, ajoutant même que, si nous le voulions, nous pouvions venir le voir le lendemain après le dîner. Nous restâmes dans ce village, non pas deux jours comme nous l'avions prévu, mais une semaine entière, et chaque soir, après le dîner, nous allions tous chez le derviche nous entretenir avec lui. En rentrant, Sari Ogley et moi faisions part à nos camarades de tout ce qui avait été dit dans ces conversations. Lorsque nous allâmes une dernière fois chez le derviche pour le remercier et prendre congé, Hekim Bey, à notre grand étonnement, s'adressa soudain à lui en persan, sur un ton de déférence qui ne lui était pas habituel, et dit « Mon bon père, j'ai pu me convaincre de tout mon être pendant ces quelques jours que vous étiez vraiment... » Il s'interrompit un instant pour nous prier précipitamment, Sari Ogley et moi, de le laisser parler sans l'aider et de ne le corriger que dans le cas où ses expressions auraient dans la langue locale une signification particulière qui pourrait dénaturer le sens de ses paroles. Puis il reprit. Que vous étiez vraiment l'homme que je cherchais instinctivement ces derniers temps pour lui confier la direction de mon monde intérieur afin de régler et de neutraliser la lutte qui a surgi en moi depuis peu entre deux tendances absolument opposées. Toutefois, des circonstances indépendantes de moi ne me permettent pas de m'installer ici près de vous et de venir, dans les moments difficiles, écouter avec vénération vos indications et vos conseils sur la manière dont je devrais vivre pour mettre fin à cette angoissante lutte intérieure et me préparer à acquérir un être digne de l'homme. C'est pourquoi je vous demande, si cela vous est possible, de ne pas refuser de me donner dès maintenant, en peu de mots, quelques indications sur les principes de vie qui conviennent à un homme de mon âge. À la question inattendue et quelque peu solennelle d'Hekim Bey, le derviche persan répondit longuement, avec beaucoup de détails et de précisions. Je ne reproduirai pas ces explications ici, dans cette seconde série de mes écrits, car je considère que pour les lecteurs sérieux de mes ouvrages, cela serait prématuré et nuirait même à la perception correcte de mes idées qui doivent les mener à une vraie compréhension et non pas à un savoir vide. Aussi ai-je décidé, en toute tranquillité de conscience, de n'exposer que plus tard la quintessence de ces conceptions dans un chapitre approprié de la troisième série de mes ouvrages, chapitre que j'intitulerai « Le corps physique de l'homme, ses besoins conformes aux lois et ses possibilités de manifestation ». Le matin qui suivit cette dernière visite au derviche, nous nous remîmes en route, en laissant au sud l'itinéraire que nous avions d'abord projeté. En effet, deux d'entre nous, Karpenko et le prince Nijeradze, étaient affaiblis par les fièvres, et leur état s'aggravait de jour en jour, de sorte qu'au lieu de nous diriger vers le golfe Persique, nous obliquâmes vers Bagdad. Nous atteignîmes Bagdad, où nous vécûmes un mois, puis nous nous dispersâmes. Chacun alla de son côté. Le prince Lubovetsky, Yelov et Hekim Bey partirent pour Constantinople. Karpenko, Nijeradze et Pogossian voulaient tenter de remonter l'Euphrate jusqu'à sa source, puis de traverser les montagnes et de gagner la frontière russe. Le docteur Sari Ogley et moi nous mîmes d'accord avec les autres pour retourner en Perse, cette fois dans la direction du Khorassan, et décider là-bas de la suite de notre expédition.
Terwijl mensen en hun landbouw te lijden hebben onder enorme watertekorten, verspilt Serragon elke dag 17 miljoen liter water. Waardoor mensen slechts 0,7 liter drinkwater per persoon per dag overhouden. Er zijn al vele beekjes opgedroogd, vervuild en vermoord door de mijnbouw. Eén beekje loopt er op dit moment existentieel gevaar. Dat is het beekje Bruno. De geplande omleiding van de Arroyo Bruno zou directe gevolgen hebben voor 30 Wayuu-gemeenschappen en in totaal 200.000 mensen in de regio. Het omleiden van de rivier zou dodelijk zijn. Het zou hetzelfde zijn als het wegnemen van de moeder van een kind. Het zou zijn alsof we ons bloed afnemen. Hoe moeten we dan leven? Zegt Leonardo Sierra, vertegenwoordiger van de Rocio-gemeenschap bij Arroyo Bruno. Laten we luisteren naar de stem van dit beekje en van de flora en fauna omtrent de mijnen. Wij waren hier lang voor jullie en zullen hier zijn lang na jullie. Herinner je wie wij zijn? Wij zijn niet alleen landschappen. Wij zijn je oorsprong, je toekomst, je ziel. Kom terug naar ons. Leef met ons, niet tegen ons. Spreek onze namen met eerbied. Wij vragen niet veel. Alleen dat jullie onze zangen niet verstoren. Onze lichamen niet breken. Het is nog niet te laat. Onze wonden kunnen helen. Onze stemmen kunnen weer zingen. Maar wij hebben jullie nodig om te luisteren en te handelen. Nu. Oh, my God.